ma grand-mère fut enchantée de Monsieur Charlus. Sans doute il attachait une extrême importance à toutes les questions de naissance et de situation mondaine, et ma grand-mère l'avait remarqué, mais sans rien de cette sévérité où entre d'habitude une secrète envie et l'irritation de voir un autre se réjouir davantage qu'on voudrait et qu'on ne peut posséder. Comme au contraire ma grand-mère, contente de son sort et ne regrettant nullement de ne pas vivre dans une société plus brillante, ne se servait que de son intelligence pour observer les travers de Monsieur de Charlus, elle parlait de l'oncle de Saint-Loup avec cette bienveillance détachée, souriante, presque sympathique, par laquelle nous récompensons l'objet de notre observation désintéressée du plaisir qu'elle nous procure, et d'autant plus que cette fois l'objet était un personnage dont elle trouvait que les prétentions, sinon légitimes, du moins pittoresques, le faisaient assez vivement trancher sur les personnes qu'elle avait généralement l'occasion de voir. Mais c'était surtout en faveur de l'intelligence et de la sensibilité, qu'on devinait extrêmement vive chez Monsieur de Charlus, au contraire de tant de gens du monde dont se moquait Saint-Loup, que ma grand-mère lui avait si aisément pardonné son préjugé aristocratique. Celui-ci n'avait pourtant pas été sacrifié par l'oncle comme par le neveu à des qualités supérieures. Monsieur de Charlus l'avait plutôt concilié avec elle. Possédant comme descendant des ducs de Nemours et des princes de Lamballe des archives, des meubles, des tapisseries, des portraits faits pour ses aïeux par Raphaël, par Velasquez, par Boucher, pouvant dire justement qu'il visitait un musée et une incomparable bibliothèque rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille, il plaçait au contraire au rang d'où son neveu l'avait fait déchoir tout l'héritage de l'aristocratie. Peut-être aussi, moins idéologue que Saint-Loup, se payant moins de mots, plus réaliste observateur des hommes, ne voulait-il pas négliger un élément essentiel de prestige à leurs yeux et qui, s'il donnait à son imagination des jouissances désintéressées, pouvait être souvent pour son activité utilitaire un adjuvant puissamment efficace. Le débat reste ouvert entre les hommes de cette sorte et ceux qui obéissent à l'idéal intérieur qui les pousse à se défaire de ses avantages pour chercher uniquement à le réaliser, semblable en cela aux peintres, aux écrivains qui renoncent leur virtuosité, aux peuples artistes qui se modernisent, aux peuples guerriers prenant l'initiative du désarmement universel, aux gouvernements absolus qui se font démocratiques et abrogent de dures lois, bien souvent sans que la réalité récompense leur noble effort, car les uns perdent leur talent, les autres leur prédominance séculaire. Le pacifisme multiplie quelquefois les guerres et l'indulgence la criminalité. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles, à juger par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez Monsieur de Charlus, lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes, au lieu de les échanger, comme son neveu, contre un mobilier moderne style des Lebourg et des Guillaumin. Il n'en était pas moins vrai que l'idéal de M. de Charlus était fort factice, et si cette épithète peut être rapprochée du mot idéal, tout autant mondain qu'artistique. À quelques femmes de grande beauté et de rare culture, dont les aïeules avaient été 2 siècles plus tôt mêlées à toute la gloire et à toute l'élégance de l'Ancien Régime, il trouvait une distinction qui le faisait pouvoir se plaire seulement avec elles. Et sans doute, l'admiration qu'il leur avait vouée était sincère, mais de nombreuses réminiscences d'histoire et d'art évoquées par leur nom y entraient pour une grande part. Comme des souvenirs de l'Antiquité sont une des raisons du plaisir qu'un lettré trouve à lire une ode d'Horace, peut-être inférieure à des poèmes de nos jours qui laisseraient ce même lettré indifférent. Chacune de ces femmes, à côté d'une jolie bourgeoise, était pour lui ce que sont à une toile contemporaine représentant une route ou une noce, ces tableaux anciens dont on sait l'histoire, depuis le pape ou le roi qui les commandèrent, en passant par tel personnage auprès de qui leur présence, pardon, achat, prise ou héritage, nous rappelle quelque événement, ou tout au moins quelque alliance d'un intérêt historique, par conséquent des connaissances que nous avons acquises, leur donne une nouvelle utilité, augmente le sentiment de la richesse des possessions de notre mémoire ou de notre érudition. Monsieur de Charlus se félicitait qu'un préjugé analogue au sien, en empêchant ces quelques grandes dames de frayer avec des femmes d'un sang moins pur, les offrit à son culte intactes dans leur noblesse inaltérée, comme telle façade du XVIIIe siècle soutenue par ses colonnes plates de marbre rose et à laquelle les temps nouveaux n'ont rien changé. Monsieur de Charlus célébrait la véritable noblesse d'esprit et de cœur de ces femmes, jouant ainsi sur le mot par une équivoque qui le trompait lui-même et où résidait le mensonge de cette conception bâtarde, de cet ambigu d'aristocratie, de générosité et d'art, mais aussi sa séduction, dangereuse pour des êtres comme ma grand-mère à qui le préjugé plus grossier mais plus innocent d'un noble qui ne regarde qu'au quartier et ne se soucie pas du reste eût semblé trop ridicule, mais qui était sans défense dès que quelque chose se présentait sous les dehors d'une supériorité spirituelle, au point qu'elle trouvait les princes enviables par-dessus tous les hommes parce qu'ils purent avoir un La Bruyère, un Fénelon comme précepteur. Devant le grand hôtel, les trois guermantes nous quittèrent. Ils allaient déjeuner chez la princesse de Luxembourg. Au moment où ma grand-mère disait au revoir à madame de Villeparisis et Saint-Loup à ma grand-mère, monsieur de Charlus, qui jusque-là ne m'avait pas adressé la parole, fit quelques pas en arrière et arrivé à côté de moi. « Je prendrai le thé ce soir après dîner dans l'appartement de ma tante Villeparisis, » me dit-il. « J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec madame votre grand-mère. » Et il rejoignit la marquise. Quoique ce fût dimanche, il n'y avait pas plus de fiacres devant l'hôtel qu'au commencement de la saison. La femme du notaire en particulier trouvait que c'était faire bien des frais que de louer chaque fois une voiture pour ne pas aller chez les Cambremer, et elle se contentait de rester dans sa chambre. « Est-ce que madame Blandet est souffrante ? » demandait-on au notaire. « On ne l'a pas vue aujourd'hui. »« Elle a un peu mal à la tête, la chaleur, cet orage. Il lui suffit d'un rien. Mais je crois que vous la verrez ce soir. Je lui ai conseillé de descendre, cela ne peut lui faire que du bien. » J'avais pensé qu'en nous invitant ainsi chez sa tante, que je ne doutais pas qu'il eût prévenu, monsieur de Charlus eût voulu réparer l'impolitesse qu'il m'avait témoignée pendant la promenade du matin. Mais quand, arrivé dans le salon de madame de Villeparisis, je voulus saluer le neveu de celle-ci, j'eus beau tourner autour de lui qui, d'une voix aiguë, racontait une histoire assez malveillante pour un de ses parents, je ne pus pas attraper son regard. Je me décidai à lui dire bonjour et assez fort pour l'avertir de ma présence, mais je compris qu'il l'avait remarqué, car avant même qu'aucun mot ne fût sorti de mes lèvres, au moment où je m'inclinais, je vis ses deux doigts tendus pour que je les serrasse, sans qu'il eût tourné les yeux ou interrompu la conversation. Il m'avait évidemment vu sans le laisser paraître, et je m'aperçus alors que ses yeux, qui n'étaient jamais fixés sur l'interlocuteur, se promenaient perpétuellement dans toutes les directions, comme ceux de certains animaux effrayés ou ceux de ces marchands en plein air qui, tandis qu'ils débitent leurs boniments et exhibent leurs marchandises illicites, scrutent sans pourtant tourner la tête les différents points de l'horizon par où pourrait venir la police. Cependant, j'étais un peu étonnée de voir que madame de Villeparisis, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être attendue. Je le fus plus encore d'entendre monsieur de Charlus dire à ma grand-mère « Ah, oh, c'est une très bonne idée que vous avez eue de venir, c'est charmant, n'est-ce pas ma tante ?» Sans doute avait-il remarqué la surprise de celle-ci à notre entrée, et pensait-il, en homme habitué à donner le ton, le « là », qui lui suffirait pour changer cette surprise en joie, d'indiquer qu'il en éprouvait lui-même, que c'était bien le sentiment que notre venue devait exciter. En quoi il calculait bien, car Madame de Villeparisis, qui comptait fort son neveu et savait combien il était difficile de lui plaire, parut soudain avoir trouvé à ma grand-mère de nouvelles qualités et ne cessa de lui faire fête. Mais je ne pouvais comprendre que M. de Charlus eût oublié en quelques heures l'invitation si brève, mais en apparence si intentionnelle, si préméditée qu'il m'avait adressée le matin même, et qu'il appela « bonne idée » de ma grand-mère, une idée qui était toute de lui. Avec un scrupule de précision que je gardais jusqu'à l'âge où je compris que ce n'est pas en la lui demandant qu'on apprend la vérité sur l'intention qu'un homme a eue et que le risque d'un malentendu qui passera probablement inaperçu est moindre que celui d'une naïve insistance. « Mais monsieur, lui dis-je, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas, que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir ?» Aucun mouvement, aucun son ne trahit que M. de Charlus eût entendu ma question. Ce que voyant, je la répétais comme les diplomates ou ces jeunes gens brouillés qui mettent une bonne volonté, inlassable et vaine, à obtenir des éclaircissements que l'adversaire est décidé à ne pas donner. M. de Charlus ne me répondit pas davantage. Il me semble avoir flotté sur ses lèvres le sourire de ceux qui, de très haut, jugent les caractères et les éducations. Puisqu'il refusait toute explication, j'essayai de m'en donner une. Et je n'arrivais qu'à hésiter entre plusieurs dont aucune ne pouvait n'être la bonne. Peut-être ne se rappelait-il pas, ou peut-être c'était moi qui avais mal compris ce qu'il m'avait dit le matin. Plus probablement par orgueil, ne voulait-il pas paraître avoir cherché à attirer des gens qu'il dédaignait, et préférait-il rejeter sur eux l'initiative de leur venue? Mais alors, s'il nous dédaignait, pourquoi avait-il tenu à ce que nous vinssions? Ou plutôt à ce que ma grand-mère vint, car de nous deux, ce fut à elle seule qu'il adressa la parole pendant cette soirée, et pas une seule fois à moi. Causant avec la plus grande animation avec elle ainsi qu'avec Madame de Villeparisis, caché en quelque sorte derrière elle, comme il eût été au fond d'une loge, il se contentait seulement, détournant par moments le regard investigateur de ses yeux pénétrants, de l'attacher sur ma figure avec le même sérieux, le même air de préoccupation que si elle eût été un manuscrit difficile à déchiffrer. Sans doute, s'il n'y avait pas eu ses yeux, le visage de M. de Charlus était semblable à celui de beaucoup de beaux hommes. Et quand Saint-Loup, en me parlant d'autre guermante, me dit plus tard « Dame, ils n'ont pas cet air de race, de grand seigneur jusqu'au bout des ongles qu'a mon oncle Palamède », en confirmant que l'air de race et la distinction aristocratique n'étaient rien de mystérieux et de nouveau, mais consistaient en des éléments que j'avais reconnus sans difficulté et sans éprouver d'impression particulière, je devais sentir se dissiper une de mes illusions. Mais ce visage, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre, M. de Charlus avait beau en fermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pu boucher, croisée du reflet de quelque engin intérieur qui semblait n'avoir rien de rassurant même pour celui qui, sans en être absolument maître, le portait en soi à l'état d'équilibre instable et toujours sur le point d'éclater. Et l'expression circonspecte et incessamment inquiète de ses yeux, avec toute la fatigue qui, autour d'eux, jusqu'à un cerne descendu très bas en résultait pour le visage, si bien composé et arrangé qu'il fût, faisait penser à quelque incognito, à quelque déguisement d'un homme puissant en danger, ou seulement d'un individu dangereux mais tragique. J'aurais voulu deviner quel était ce secret que ne portaient pas en eux les autres hommes et qui m'avait déjà rendu si énigmatique le regard de M. de Charlus quand je l'avais vu le matin près du casino. Mais avec ce que je savais maintenant de sa parenté, je ne pouvais plus croire ni que ce fût celui d'un voleur, ni, d'après ce que j'entendais de sa conversation, que ce fût celui d'un fou. S'il était si froid avec moi, alors qu'il était tellement aimable avec ma grand-mère, cela ne tenait peut-être pas à une antipathie personnelle, car d'une manière générale, autant il était bienveillant pour les femmes, des défauts de qui il parlait sans se départir, habituellement d'une grande indulgence, autant il avait à l'égard des hommes, et particulièrement des jeunes gens, une haine d'une violence qui rappelait celle de certains misogynes pour les femmes. De deux ou trois gigolos qui étaient de la famille, ou de l'intimité de Saint-Loup, et dont celui-ci cita par hasard le nom, M. de Charlus dit avec une expression presque féroce qui tranchait sur sa froideur habituelle « Ce sont de petites canailles ». Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. « Ce sont de vraies femmes, » disait-il avec mépris. Mais quelle vie n'eût semblé efféminée auprès de celle qu'il voulait que menât un homme et qu'il ne trouvait jamais assez énergique et virile. Lui-même, dans ses voyages à pied, après des heures de course, se jetait brûlant dans des rivières glacées. Il n'admettait même pas qu'un homme portât une seule bague. Mais ce parti pris de virilité ne l'empêchait pas d'avoir des qualités de sensibilité des plus fines. À Madame de Villeparisis, qui le priait de décrire pour ma grand-mère un château où avait séjourné Madame de Sévigné, ajoutant qu'elle voyait un peu de littérature dans ce désespoir d'être séparée de cette ennuyeuse Madame de Grignan. « Rien au contraire, répondit-il, ne me semble plus vrai. C'était du reste une époque où ces sentiments-là étaient bien compris. L'habitant du Monomotapa de La Fontaine, courant chez son ami qui lui est apparu un peu triste pendant son sommeil, le pigeon trouvant que le plus grand démo est l'absence de l'autre pigeon, vous semble peut-être, ma tante, aussi exagéré que Madame de Sévigné ne pouvant pas attendre le moment où elle sera seule avec sa fille. C'est si beau ce qu'elle dit quand elle la quitte. Cette séparation me fait une douleur à l'âme que je sens comme un mal du corps. Dans l'absence, on est libéral des heures. On avance dans un temps auquel on aspire. Ma grand-mère était ravie d'entendre parler de ces lettres exactement de la façon qu'elle eût fait. Elle s'étonnait qu'un homme pût les comprendre si bien. Elle trouvait à M. de Charlus des délicatesses, une sensibilité féminine. Nous nous dîmes plus tard, quand nous fûmes seuls et parlâmes tous les deux de lui, qu'il avait dû subir l'influence profonde d'une femme, sa mère, ou plus tard sa fille, s'il avait des enfants. Moi, je pensais une maîtresse. En me reportant à l'influence que celle de Saint-Loup me semblait avoir eue sur lui et qui me permettait de me rendre compte à quel point les femmes avec lesquelles ils vivent affinent les hommes. Une fois près de sa fille, elle n'avait probablement rien à lui dire, répondit Madame de Villeparisis. Certainement si, fût-ce de ce qu'elle appelait choses si légères qu'il n'y a que vous et moi qui les remarquions. Et en tout cas, elle était près d'elle. Et la Bruyère nous dit que c'est tout. Être près des gens qu'on aime, leur parler, ne leur parler point, tout est égal. Il a raison, c'est le seul bonheur, ajouta M. de Charlus d'une voix mélancolique. Et ce bonheur-là, hélas, la vie est si mal arrangée qu'on le goûte bien rarement. Madame de Sévigné a été en somme moins à plaindre que d'autres. Elle a passé une grande partie de sa vie auprès de ce qu'elle aimait. « Tu oublies que ce n'était pas de l'amour, c'était de sa fille qu'il s'agissait. »« Mais l'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, » reprit-il d'un ton compétent, péremptoire et presque tranchant. « C'est d'aimer. » Ce que ressentait Madame de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que Racine a dépeinte dans Andromaque ou dans Phèdre que les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses. De même, l'amour de tel mystique pour son Dieu. Les démarcations trop étroites que nous traçons autour de l'amour viennent seulement de notre grande ignorance de la vie.
« Tu aimes beaucoup Andromaque et Phèdre ?» demanda Saint-Loup à son oncle, sur un ton légèrement dédaigneux. « Il y a plus de vérité dans une tragédie de Racine que dans tous les drames de M. Victor Hugo, » répondit M. de Charlus. C'est tout de même effrayant, le monde, me dit Saint-Loup à l'oreille. Préférer Racine à Victor, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il était sincèrement attristé des paroles de son oncle, mais le plaisir de dire quand même et surtout énorme le consolait. Dans ses réflexions sur la tristesse qu'il y a à vivre loin de ce qu'on aime, qui devait amener ma grand-mère à me dire que le neveu de Madame de Villeparisis comprenait autrement bien certaines œuvres que sa tante, et surtout avait quelque chose qui le mettait bien au-dessus de la plupart des gens de club, Monsieur de Charlus ne laissait pas seulement paraître une finesse de sentiment que montrent en effet rarement les hommes. Sa voix elle-même, pareille à certaines voix de contralto en qui on n'a pas assez cultivé le médium, et dont le chant semble le duo alterné d'un jeune homme et d'une femme, se posait, au moment où il exprimait ses pensées si délicates, sur des notes hautes, prenait une douceur imprévue et semblait contenir des cœurs de fiancés, de sœurs qui répandaient leur tendresse. Mais la nichée de jeune fille que M. de Charlus, avec son horreur de tout efféminement, aurait été si navrée d'avoir l'air d'abriter ainsi dans sa voix, ne s'y bornait pas à l'interprétation, à la modulation des morceaux de sentiment. Souvent, tandis que causait M. de Charlus, on entendait leur rire aigu et frais de pensionnaires ou de coquettes ajuster leur prochain avec des malices de bonne langue et de fine mouche. Il raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de le nôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël qui l'avait acheté. Israël, du moins c'est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique ethnique plutôt qu'un nom propre. On ne sait pas, peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de nom et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela ne fait rien. Avoir été la demeure des Guermantes et appartenir aux Israël, s'écria-t-il. Cela fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit « C'est ici que Marie Stuart faisait sa prière. Et c'est là, maintenant, où ce que je mets mes balais. Naturellement, je ne veux rien savoir de cette demeure qui s'est déshonorée, pas plus que de ma cousine Clara de Chimay qui a quitté son mari. Mais je conserve la photographie de la première encore intacte, comme celle de la princesse quand ses grands yeux n'avaient de regard que pour mon cousin. La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque quand elle cesse d'être une reproduction du réel et nous montre des choses qui n'existent plus. Je pourrais vous en donner une, puisque ce genre d'architecture vous intéresse, dit-il à ma grand-mère. À ce moment, apercevant que le mouchoir brodé qu'il avait dans sa poche laissait dépasser des liserés de couleur, il le rentra vivement avec la mine effarouchée d'une femme pudibonde, mais point innocente, dissimulant des appâts que, par un excès de scrupule, elle juge indécent. « Imaginez-vous, reprit-il, que ces gens ont commencé par détruire le parc de Lenôtre, ce qui est aussi coupable que de lacérer un tableau de Poussin. Pour cela, ces Israël devraient être en prison. » « Il est vrai, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, qu'il y a sans doute tant d'autres choses pour lesquelles ils devraient y être. En tout cas, vous vous imaginez l'effet que produit devant ces architectures un jardin anglais. » « Mais la maison est du même style que le petit Trianon, » dit Madame de Villeparisis. « Et Marie-Antoinette y a bien fait faire un jardin anglais. »« Qui dépare tout de même la façade de Gabriel, » répondit M. de Charlus. « Évidemment, ce serait maintenant une sauvagerie que de détruire le hameau. Mais quel que soit l'esprit du jour, je doute tout de même qu'à cet égard une fantaisie de Madame Israël ait le même prestige que le souvenir de la reine. » Cependant, ma grand-mère m'avait fait signe de monter me coucher, malgré l'insistance de Saint-Loup qui, à ma grande honte, avait fait allusion devant M. de Charlus à la tristesse que j'éprouvais souvent le soir avant de m'endormir, et que son oncle devait trouver quelque chose de bien peu viril. Je tardai encore quelques instants, puis m'en allai, et fus bien étonnée quand, un peu après, ayant entendu frapper à la porte de ma chambre, et ayant demandé qui était là, j'entendis la voix de M. de Charlus qui disait d'un ton sec « C'est Charlus. Puis-je entrer, monsieur ?
Monsieur, reprit-il du même ton une fois qu'il eut refermé la porte, mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux.
Je remerciai M. de Charlus avec émotion et lui dis que j'avais au contraire eu peur que ce que Saint-Loup lui avait dit de mon malaise à l'approche de la nuit m'eût fait paraître à ses yeux plus stupide encore que je n'étais.
« Mais non, répondit-il avec un accent plus doux, vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien, si peut-être en ont, mais pour un temps du moins vous avez la jeunesse et c'est toujours une séduction. D'ailleurs, monsieur, la plus grande des sottises, c'est de trouver ridicule ou blâmable les sentiments qu'on n'éprouve pas.
J'aime la nuit et vous me dites que vous la redoutez.
J'aime sentir les roses et j'ai un ami à qui leur odeur donne la fièvre. Croyez-vous que je pense pour cela qu'il vaut moins que moi ?
Je m'efforce de tout comprendre et je me garde de rien condamner. En somme, ne vous plaignez pas trop. Je ne dirai pas que ces tristesses ne sont pas pénibles. Je sais ce qu'on peut souffrir pour des choses que les autres ne comprendraient pas. Mais du moins, vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. Vous la voyez beaucoup. Et puis, c'est une tendresse permise. Je veux dire, une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela.
Il marchait de long en large dans la chambre, regardant un objet, en soulevant un autre. J'avais l'impression qu'il avait quelque chose à m'annoncer et ne trouvais pas en quel terme le faire.
« J'ai un autre volume de Bergotte ici, je vais vous le chercher, » ajouta-t-il, et il sonna. Un groom vint au bout d'un moment. « Allez me chercher votre maître d'hôtel. Il n'y a que lui ici qui soit capable de faire une commission intelligemment, » dit M. de Charlus avec hauteur.
« Monsieur aimé, monsieur ?» demanda le groom.
« Je ne sais pas son nom, mais si, je me rappelle que je l'ai entendu appeler Aimé. Allez vite, je suis pressée. »«
Il va être tout de suite ici, monsieur, je l'ai justement vu en bas, » répondit le groom qui voulait avoir l'air au courant. Un certain temps se passa, le groom revint.
« Monsieur, monsieur Aimé est couché, mais je peux faire la commission. »«
Non, vous n'avez qu'à le faire lever. »«
Monsieur, je ne peux pas, il ne couche pas là. »
« Alors laissez-nous tranquilles. »«
Mais monsieur, dis-je, le groom parti, vous êtes trop bon. Un seul volume de Bergotte me suffira. »«
C'est ce qui me semble après tout. »
Monsieur de Charlus marchait. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis, après quelques instants d'hésitation et se reprenant à plusieurs fois, il pivota sur lui-même et de sa voix redevenue cinglante, il me jeta
« Bonsoir, monsieur »
et partit. Après tous les sentiments élevés que je lui avais entendus exprimer ce soir-là, le lendemain qui était le jour de son départ sur la plage, dans la matinée au moment où j'allais prendre mon bain, comme M. de Charlus s'était approché de moi pour m'avertir que ma grand-mère m'attendait aussitôt que je serais sortie de l'eau, je fus bien étonnée de l'entendre me dire en me pinçant le cou avec une familiarité et un rire vulgaire
« Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille ?»«
Comment, monsieur, je l'adore !»«
Monsieur, me dit-il en s'éloignant d'un pas et avec un air glacial, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Je vous ai prêté un livre de Bergotte dont j'ai besoin. Faites-le-moi rapporter dans une heure par ce maître d'hôtel au prénom risible et mal porté qui, je suppose, n'est pas couché à cette heure-ci. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt hier soir des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences et son incompréhension.
J'espère, monsieur, que cette petite douche ne vous sera pas moins salutaire que votre bain. Mais ne restez pas ainsi immobile, car vous pourriez prendre froid. Bonsoir, monsieur. » Sans doute eut-il regret de ces paroles, car quelque temps après je reçus, dans une reliure de maroquin sur le plat de laquelle avait été encastrée une plaque de cuir incisée qui représentait en demi-relief une branche de myosotis, le livre qu'il m'avait prêté et que je lui avais fait remettre non par Aimé qui se trouvait de sortie, mais par le liftier.